bout de souffle. Revue internationale des livres et des idées. Revue bimestrielle, distribuée en kiosque, initiée par les maisons d'édition Amsterdam à l'automne 2007. Bâtie sur le modèle de la London Review of Books, la revue internationale des livres et des idées se saisit des livres pour en dégager leur force critique. Ou au contraire, leur impuissance à penser justement le monde contemporain. Revue transdisciplinaire, elle participe à la circulation des savoirs entre les disciplines, dans l'espace social et à travers les frontières linguistiques. Revue critique, elle ouvre l'espace d'un véritable dialogue entre les contributeurs et les auteurs. Revue engagée, elle est une zone de contact entre les gauches critiques et s'efforce de mettre en valeur les travaux de recherche qui viennent troubler les savoirs établis.
Du pouvoir d'État, de la transformation de la société par l'État, de démocratisation.
Jérôme Vidal sociale, est directeur de publication de la revue internationale des livres et des idées. Il est également co-responsable des éditions Amsterdam, qu'il a fondé en 2003, de formulation et membre de du comité de rédaction de la revue Multitude. Il a également publié Lire et penser ensemble sur l'avenir de l'édition indépendante et la publicité de la pensée critique et la fabrique de l'impuissance, la gauche, les intellectuels et le libéralisme sécuritaire. De Jérôme Vidal à propos de la revue internationale des livres et des idées. Mars-avril 2010, numéro 16. Présentation de la revue et sommet.
La revue est composée essentiellement de comptes rendus de lecture. Donc d'essais critiques autour de livres. Le point de départ de notre travail était le constat que la critique d'essais en France était, en tout cas quand elle est destinée à un grand public, relativement pauvre et que donc la place dévolue aux essais n'était pas satisfaisante.
Ian Howlett talks about books. Today, slightly differently, I'm not going to be talking about a book. I'm going to be talking about this, the London Review of Books. It's a fortnightly newspaper, and it discusses, well, slightly badly named, really. It doesn't restrict itself to London. It doesn't really review the books. And also, it talks about some other things alongside books, such as film, and then random sections like the diary, and sometimes it's something called...
On est parti, en fait, de... la lecture d'abord de revues qui existent dans le monde, en particulier dans le monde anglophone, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, comme la London Review of Books, la New York Review of Books, Book Forum, ou des, une revue un peu différente, enfin des revues un peu différentes comme, comme la New Left Review ou Radical Philosophy, qui ont une, des, comment dire, des recensions dans lesquelles les recensions ont une part importante. Donc les recensions d'ouvrages ont une part importante. Et l'idée était, en suivant donc ces revues, de donner, enfin de considérer que la critique littéraire était un genre, la critique d'essai, le compte-rendu de livres était un genre qui devait en français acquérir ses titres de noblesse, inexistants, pas reconnus comme tels, et pourtant à mon avis absolument essentiels à la vie des idées.
La décroissance est-elle souhaitable ? De Stéphane Lavignotte. Écologie, communauté et style de vie, Dan Nunes. The Enemy of Nature, The End of Capitalism, or The End of the World, de Joël Covel.
Dans la vie intellectuelle, on vit en rebondissant de livre en livre, en parcourant les bibliographies, les notes de bas de page, les références, et en découvrant comme ça des livres. Et que donc le moment d'appréciation d'un livre est un moment absolument essentiel dans la vie intellectuelle.
La potencia plebeia, acciones colectivas e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia.
Or, le constat est donc que dans les revues, les magazines, les journaux, les hebdos en France, la place dévolue aux critiques est de plus en plus faible, et souvent en fait les critiques se comportent plutôt en bonimenteurs, qui vendent tel ou tel copain, font part de leurs humeurs et ne font rarement un travail de véritable critique, ce qui suppose non pas seulement d'exposer le contenu d'un livre et de l'évaluer, mais selon nous aussi un compte-rendu doit être vraiment une intervention culturel, intellectuel, à partir d'un livre. Il s'agit de donner toute sa force au terme de critique, quand on parle de critique de livre. Donc il y a bien un travail d'appréciation, d'évaluation, de la rigueur démonstrative ou rhétorique d'un livre, de son intérêt. D'un autre côté, Le souci, c'est aussi d'une certaine façon de saisir ce qui, dans les livres eux-mêmes, relève d'une dimension critique. Et critique de quoi ? Critique de la pensée, critique de l'esprit du temps, de l'époque, de la société. Donc l'objectif, c'est vraiment de combiner les deux, c'est de penser que la critique de livres est un moment absolument essentiel de la critique sociale, de la critique politique.
Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. De Jared Diamond. The Euradian Miracle. De Jack Gaudy. Commonwealth. D'Antonio Negri. Maximilien Rubel, pour redécouvrir Marx, de Miguel Abensur et Louis Janover. Le Capital, de Karl Marx. Spinoza ou l'autre, Infinitude, d'André Tozel.
Plein et pas un.
Revue internationale des livres et des idées.
Pas un qui manque.
Numéro 16.
Qui manque à son rail.
Un numéro dédié à la mémoire de Daniel Ben-Saïd.
Rail sorti d'une bouche. D'une bouche. Ou d'un postier.
À bout de souffle. Avec Jérôme Vidal.
Ils ne se heurtent pas, ils suivent.
À propos de la revue internationale des livres et des idées. Numéro 16. Mars-avril 2010.
Ils suivent la musique lo-fi. l'eau fit des boucles s'empiler. Pilée avec un filet de voix. Voix qui se faufile entre les couches. Entre les couches des vouilles en noir et blanc. Noir et blanc d'un fil social d'avant-guerre. Guerre électriquement accompagnée. Électriquement accompagnée la prise. Prise et l'affolement du valo piétine. Piétiner, petit soufflet pour grand fournaise. Fournaise, tu es foulé, refoulé, défoulé. Défoulé par les ESP de la ville ou la lune. Ou la lue d'un état des lieux turbulents diluviens. Diluviens, une soupe qui bouillonne en cadence pour toi. Pour toi, casqué, voyant, passant machine pour la première fois.
Le monde des livres, le monde des idées est un monde traversé de lignes de fracture, de partage, de contradictions, et que souvent bah, chacun reste retranché derrière ses lignes, et qu'il est absolument nécessaire justement d'abord d'apprendre à bouger les lignes, de les traverser, et de faire en sorte que si partage il y a entre telle ou telle sensibilité, tel ou tel courant, telle ou telle position intellectuelle, politique, le grand risque dans tout ça est la stérilité, et que l'important c'est précisément d'organiser des rencontres, de manière à ce que opposition, contradiction soient productives. En France, il y a eu un certain nombre de tentatives auxquelles on pourrait penser. Il y a eu une tentative lancée par Pierre Bourdieu il y a quelques années, qui a périclité assez rapidement. Donc c'était vraiment le projet d'avoir une revue, alors là très très orientée, enfin avec ce sociologisme dont est porteur Pierre Bourdieu, donc qui à mon avis restreignait beaucoup, enfin ça manquait de respiration. Excellent niveau, hein, c'était vraiment très intéressant, une revue de très bonne qualité, mais qui manquait justement de goût pour la contradiction. D'abord, on avait envie de lire cette revue-là. On avait envie de quelque chose comme ça, et que donc il ne s'agissait pas de conquérir un marché en supposant qu'il y avait un marché à occuper. Mais ce qu'on avait sous les yeux, en gros, nous emmerdait, ne nous satisfaisait pas. Et on se disait que voilà, il faudrait quelque chose comme ça, qui ressemble à la New York Review of Books sans être la New York Review of Books, parce que là aussi ses défauts. Et puis, enfin, notre autre idée, c'était que non seulement on ne devait pas être les seuls à avoir ce désir d'une revue de ce type, mais c'est que certainement les gens qui, comment dire, aujourd'hui font les médias sont en général, les médias classiques sont en général, en fait, projettent. Sur le lectorat, sur les lecteurs, leur propre médiocrité, disons. C'est un numéro où on a des articles qui vont jusqu'à 80 000 signes. Le plus souvent, ça tourne autour de 15, 25, 35 000 signes, 45 000. Donc des formats très très conséquents, et si on veut travailler vraiment une question, travailler vraiment un livre, en déployer comme ça toute la puissance, toute la force, toute la productivité, il faut prendre le temps et il faut le décortiquer, voir comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit, et puis pour ensuite justement tirer tous les fils et aller au-delà d'un livre, il faut de l'espace. C'est un vrai défi. Alors au départ, quand on a lancé le projet, on a discuté avec un certain nombre de professionnels de la presse, qui nous ont rayonné, c'est-à-dire qui pensaient que c'était absolument impossible de lancer quelque chose. Parce qu'aux États-Unis, donc en Grande-Bretagne, c'est, enfin, à la limite, on est un peu en dessous de ce que font toutes les deux semaines la New York Review of Books et la London Review of Books. Mais c'est des grosses machines, enfin, je veux dire, c'est vraiment des journaux qui ont une diffusion extrêmement importante de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, avec une régularité, une fréquence plus importante que la Revue internationale des livres et des idées, puisque donc, si je me souviens bien, la New York Review of Books c'est toutes les deux semaines et la London Review of Books aussi. Vie intellectuelle en France est quand même très provinciale. Il y a une sorte de fermeture et de prétention à pouvoir se passer de ce qui s'écrit, ce qui se pense en dehors. Il y a toujours des discours là, sur les États-Unis. On a souvent les chercheurs, les universitaires français ont un discours disqualifiant, qu'il s'agisse de recherches, comment dire, un peu d'avant-garde ou hétérodoxe, ou même de recherche académique. Il y a toujours des raisons d'expliquer que ce qui se fait dans le monde anglophone, aux États-Unis en particulier, mais ailleurs en général, n'est pas aussi bon que ce qui se fait en France. Et puis il y a aussi, enfin, là on peut le constater même de manière très très objective, le regard. on peut essayer de mesurer où se porte le regard des chercheurs français. Il suffit de regarder la recherche historique des historiens. Les Français s'intéressent à la France. Moi, ma conviction, c'est que même si on s'intéresse à la France, on est obligé de porter son regard ailleurs. Je veux dire, la France a eu un empire colonial. Elle est inscrite dans un monde qui est aujourd'hui plus globalisé encore qu'il ne l'était hier. Je vois mal comment on peut aujourd'hui travailler sérieusement, sans sortir de chez soi, sans aller passer, d'abord sans apprendre des langues étrangères, ce que tous les chercheurs ne font pas. C'est plutôt une exception. Il y a vraiment beaucoup de chercheurs, par exemple, qui ne parlent pas même une autre langue étrangère que une autre langue que le français. Et donc notre souci, c'est d'aider, de participer. Alors il y a un mouvement, hein, d'abord les choses changent, les gens circulent plus, les livres se traduisent aussi. Il y a un grand mouvement de traduction vers le français, dont Edition Amsterdam est partie prenante, et dans lequel nous avons joué un rôle important, je crois. Mais il y a d'autres maisons d'édition qui travaillent aujourd'hui à traduire un certain nombre de choses qui se sont faites de par le monde. Donc il y a quand même des phénomènes intéressants. Mais dans la situation, une des grandes préoccupations de la RILI, c'est d'assurer justement ce travail de traduction et de circulation des idées. De manière privilégiée depuis le monde anglophone, de fait, les universités anglophones et les universités plutôt américaines et britanniques ont un pouvoir d'attraction sur les chercheurs de la planète entière qui est énorme. Donc, y compris les chercheurs qui commencent à travailler en Inde, qui commencent à travailler en Afrique, qui commencent à travailler en Amérique latine, qui commencent à travailler en Asie, se retrouvent bien souvent pour finir dans l'université, dans des universités britanniques ou américaines, qui sont vraiment des lieux cosmopolites. Comparé à la France, là vraiment, l'université française est franco-française et, comme diraient les indigènes de la République gauloise, dans le monde, l'université américaine, c'est un lieu vraiment très étonnant, par le recrutement des étudiants, mais aussi par le recrutement des chercheurs. Et du coup, même si on fait un effort pour sortir de cette sphère, en fait, on est constamment ramené, parce que de toute façon, les chercheurs qui nous intéressent, qui ont travaillé peut-être pour commencer à Sao Paulo, à Buenos Aires, à dans je ne sais quelle capitale du monde asiatique, se retrouvent. Donc là, il y a vraiment un pouvoir d'attraction très 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 fort. Et donc pour nous, le souci, donc on essaye de résister à cette inévitable attraction, notamment là on aimerait beaucoup augmenter notre pouvoir de compréhension de ce qui se passe en Amérique latine. Il faudrait aussi, mais là je crois que c'est encore un pari encore plus difficile, aller voir du côté de la Corée, du Japon, de la Chine même, où il se passe vraiment plein de choses très intéressantes, et eux, pour le coup, font le travail de traduction. Hein. Moi je le vois comme éditeur, les livres qui sont susceptibles d'être dont les droits sont susceptibles d'être vendus à l'étranger pour des traductions. Alors, il y a les quelques pays européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui peuvent acheter, ou les anglophones. Et sinon, c'est les Coréens, les Japonais, les Chinois, qui sont qui dévorent tout, qui sont en train d'assimiler tout ce qui bouge en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, et en train de faire avec ça leur propre sauce. Donc il y a des phénomènes comme ça. Au cœur, qu'on aimerait ressaisir, au cœur desquels on aimerait se trouver. D'où la présence dans la RILI d'un nombre, à mon avis, pas encore assez grand, de recensions, d'ouvrages qui ne sont pas encore disponibles en français, ou aussi d'ouvrages qui viennent d'être traduits, et justement, donc il s'agit de rendre compte pour saisir cette circulation internationale des idées. La revue occupe une place incontestablement moindre, la revue papier en tout cas occupe une place incontestablement moindre que dans les années 60, 70, où les revues étaient absolument essentielles à la vie intellectuelle, à la circulation des livres, à la circulation des idées. Et là il semble que, alors c'est difficile de comprendre pourquoi, on peut rapporter ça à une sorte de recul politique, culturel, intellectuel, une sorte de période de réaction qui entraînerait avec elle les revues en arrière. Mais je suis pas sûr que ce soit le seul problème. Il y a peut-être aussi un épuisement d'une certaine forme qui a besoin de se réinventer. Il est évident que l'existence aujourd'hui du web change considérablement la donne. Qu'il est difficile de concevoir une revue comme un support exclusivement en papier. Ça, c'est des choses à négocier. Une revue comme Multitude, par exemple, c'est beaucoup développé en ligne et a un fonds gigantesque qui est consulté. Enfin, la diffusion papier de la revue est ridicule comparée à la fréquentation du site et à la façon dont les gens exploitent les ressources qu'offre le site de Multitude, qui est effectivement d'une richesse tout à fait incroyable. Donc là, il y a des choses à inventer. Évidemment, du point de vue économique, c'est compliqué à gérer. Parce que le principe étant, sur le web, souvent la gratuité, certaines revues peuvent fonctionner sur un modèle, le modèle du bénévolat, modèle associatif. Avec une revue comme la RILI, fondamentalement, on fonctionne sur un modèle associatif, mais les frais engagés sont tels qu'on est obligé d'avoir une démarche commerciale, tout simplement pour arriver à l'équilibre financier, qui est aujourd'hui impossible sans l'aide de la région et l'aide du Centre national du livre. On a du mal à investir autant qu'on le voudrait le web. Faire un numéro de la release, c'est déjà énormément de travail. Alors, on a d'abord, notre site a été surtout une vitrine dans laquelle était présentée la revue, qui permettait aux visiteurs de lire quelques articles de la revue, pour découvrir la revue, puis pour les abonnés, accéder aux archives. Justement, on aimerait bien développer quand même des formats courts, essayer d'inventer pour le web une forme de critique qui serait donc courte pour la faciliter la lecture en ligne, mais qui en même temps aurait le même niveau d'exigence que ce qu'on arrive à faire. Donc là, on travaille à ça, c'est pas encore au point. Il y a quelques petits articles qui sont sortis, une rubrique aussi qui a été développée qui donne des résultats parfois, pas toujours, mais parfois très intéressants, qui s'intitule « À quoi pensez-vous ?» où il y a une série de petites questions adressées à des personnes, souvent des chercheurs ou des auteurs, et qui en gros expliquent ce sur quoi ils travaillent, ceux qui viennent de lire le livre ou les livres ou les idées qu'ils ont rencontrées récemment qui ont été absolument déterminants pour eux. Voilà, il y a des gens qui s'emparent de ce genre un peu simple, comme ça, une sorte de questionnaire de Proust un peu plus sérieux, et qui s'emparent de ça et font des choses, enfin, il y a quelque chose qui passe d'intéressant. Voilà, donc on travaille comme ça, inventer des formats adaptés au web qui viennent, comment dire, compléter ou accompagner la revue papier.
C'est l'endroit de la pause. C'est reparti. C'est ici l'endroit de la pause. Ne nous arrêtons pas. C'est reparti. À l'endroit où nous devions nous arrêter, nous repartons. 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 La pause est à cet endroit. C'est là l'endroit où ça repart. C'est la pause. Nous ne faisons pas la pause. C'est reparti.
4, 3,
une petite pause pour indiquer que ce numéro est dédié à la mémoire de Daniel Ben Saïd, qui est un des contributeurs de la revue, et je peux le dire sans que le mot est peut-être un peu fort, mais un ami, il y avait quelque chose, une rencontre, et il a été d'une telle générosité avec nous qu'il nous a semblé difficilement possible de ne pas faire écho à son décès, d'autant plus que au-delà, enfin, il y a une culture théorique, culture politique qui est portée par leur vue, qui est pas exactement la même que celle dont était porteur Daniel Ben Saïd, mais en même temps, si on regarde les derniers livres de Daniel, il y avait quelque chose qui était vraiment dans la démarche, qui était tout à fait commun, c'était que Daniel était un lecteur très attentif et très honnête. Des livres qu'il lisait. Donc il y avait un travail, vraiment un souci qui est tout à fait commun avec l'effort qui est porté par la revue, comme ça, de mise en commun des ouvrages et de confrontation critique de manière à comment dire, faire ressortir les points aveugles, même en même temps les lignes de force des pensées des uns et des autres, y compris des personnes par rapport auxquelles on se sent à distance. Moi, j'ai toujours trouvé remarquable en lisant les livres de Daniel Ben Saïd, justement, alors qu'il y a toute une distance très forte à des auteurs qui moi, me sont chers, comme Gilles Deleuze, Michel Foucault. Mais quand il les lisait, il me semble qu'il y avait une intelligence de lecteur qui allait bien au-delà, justement, des critiques faciles, et parfois méritées d'ailleurs, qui peuvent être adressées à des auteurs comme ceux-ci. Donc il y avait vraiment un souci, non pas de simplement justement prendre les auteurs dans leur faiblesse et leur fragilité, ou voir leur facilité et médiocrité, mais de saisir, y compris donc chez ce qui peut apparaître comme des adversaires parfois, les points de force, et là où ils touchent quelque chose comme ça, qui vient déranger nos propres dispositions et positions.
Revue internationale des livres et des idées, numéro 16. un numéro dédié à la mémoire de Daniel Ben Saïd.
Et au fond, vous nous dites implicitement la seule vraie commémoration possible, ce serait de refaire la révolution.
Bien sûr.
C'est ça, bien sûr, bien sûr.
Il y en a des inconnus à se demander s'ils se sont donné le mot tout en accéléré, léger, les mailles bousculées par le montage que montre une place grise de monde, puis tout à coup vide, tu es une jetée caoutant dehors dans le tissu tassé d'une foule qui épouse les accidents du terrain dans une vague aux oreilles, le iPod à fond dans les riffs métalliques, un écho des sirènes moteurs, alarme cri des membres humains mécaniquement agités ou pièces détachées de voitures, d'autobus que précède et que suit leur vomissement antique. Antique musique de sphère, des éléments par blocs sans sens.
À bout de souffle, avec Jérôme Vidal, à propos de la revue internationale des livres et des idées, numéro 16, mars-avril 2010.
On ne travaille pas du tout par dossier. C'est vraiment, on lance des pistes, les choses nous arrivent, les comptes rendus nous arrivent, nous sont envoyés, on les travaille. Mais on ne fonctionne pas. Là, par exemple, donc, il y avait un certain nombre d'articles qui se sont assemblés, qui nous ont permis de constituer un noyau à la revue autour de cette question « Comment vivons-nous ?» qui renvoie à des questions liées à l'écologie politique. Mais il a pas été question pour nous de faire ce dossier a priori. C'est vraiment dans la réalisation du numéro, l'arrivée d'articles, que tout d'un coup, c'est dessiner un numéro. Alors moi, ce qui me frappe toujours de numéro en numéro, c'est justement comme ça des lignes d'analyse qui traversent tous les articles de gens qui ne se connaissent parfois absolument pas, sur des livres aussi qui n'ont pas forcément des liens. Parce qu'en fait, si on circule, si on prend le sommaire de la revue, les articles rebondissent. On peut circuler vraiment dans l'ensemble de la revue. Il y a une cohérence, mais qui n'a pas du tout été... Enfin, c'est vraiment en lisant les articles qu'à chaque fois, il y a des choses comme ça qui sautent au visage, des thèmes qui reviennent et qui font que tous les articles ont les uns avec les autres un air de famille, mais qui est... pas le fruit du hasard, en fait. Pas le fruit du hasard, mais qui, en tout cas, c'est pas l'objet d'une construction, comment dire, a priori, réfléchie. C'est plus un art de recevoir les choses et de les susciter éventuellement, qui donne sa cohérence à la revue et qui produit ces effets d'écho entre les articles au sein d'un même numéro, puis entre les différents numéros.
Thank you.
Cette jeune femme s'appelle Nikki Tsinfal. Elle appartient à une famille de grands banquiers et a été élevée dans un couvent de New York. Non loin de Montparnasse, elle fait de la peinture à la carabine. Ces bas-reliefs de plâtre renferment différents objets, des œufs, des tomates, des capsules de shampoing, des flacons d'encre, des tubes de couleur. Ils éclatent sous le choc de la balle et des taches de couleur apparaissent à la surface du plâtre. L'artiste arrête le tir lorsqu'elle estime que les transformations obtenues sont belles. Ces transformations vont parfois d'ailleurs jusqu'à la destruction. Tout le monde peut participer à l'opération. Le tireur, qui est souvent l'acheteur, est le seul juge du résultat. Nikki Tsinfal s'est manifestée au salon Comparaison à Paris. Ses œuvres, éclatées et éclatantes, sont exposées actuellement au musée de Stockholm. Elles le seront au début du mois de juillet dans la nouvelle galerie expérimentale de la rive gauche, la galerie J.
C'est dans les collections du musée d'art moderne, du centre Georges Pompidou, un accrochage qui est pour l'essentiel dédié à des artistes femmes. Contre toute attente, les responsables du musée, semble-t-il, ne misaient pas du tout là-dessus. Ça a eu un succès énorme. Ça a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Un grand nombre de visiteurs sont venus. Et effectivement, des controverses sont nées sur les partis pris des concepteurs de l'exposition qui, d'après Giovanna Zapperi, en fait, ont neutralisé ce que pouvait avoir de critiques, les questions posées par la mise en avant comme ça de l'œuvre d'artistes du XXe siècle femmes. Donc la mise en question de la représentation de l'histoire de l'art que nous nous faisons, qui est effectivement une histoire le plus souvent organisée autour de noms qui sont des noms d'hommes, d'artistes hommes. Et il y a donc un certain nombre de partis pris qui ont été pris par les responsables de l'exposition qui, d'une certaine façon, sont venus ruiner tout le potentiel critique qui était susceptible d'être tiré, notamment en évacuant justement de manière délibérée les questions féministes. Donc il y a eu un parti pris avec des classements thématiques, des regroupements comme ça qui sont un peu discutables et qui, d'une certaine façon, viennent reconduire ce à quoi l'exposition prétendait échapper, justement, en termes de caractère genré.
Bien, nous voyons les objets avec nos yeux et nous voyons les couleurs. Voici des noms de couleurs.
One, two men carry a woman to table there, for painting.
Elle est bête.
Jeune. Claudia in apron with a basket transitions with a flashlight to collect the chickens and fish and replace them.
What? Je suis prête.
Blanche.
Oui.
Quelle est la couleur de l'herbe et des fruits?
And the vision which cannot be repeated.
Vert et les fruits au printemps sont verts.
I take vision not as a factor, but as an aggregate of sensations. I want evocation, space, a place between desire and experience.
Ses lèvres sont rouges. Le ciel est bleu.
Outre, le froid, ouvrière. Oui, quel bruit pour sa vie.
In the pyre, they drench me with sponges for their feet. Throw the sponges, we grab the sponges, we drench one another.
Aussi,
quelquefois, quand le soleil se couche,
voici
un beau tableau par Léonard.
S'il vous plaît,
c'est mon analyse.
Ce tableau est beau.
Cela est certain.
Couple painting, exchange mixture. Figures charging through alley aisles, slipping. One.
Neutraliser le genre, l'accrochage des collections du Musée National d'Art Moderne consacré aux artistes femmes. Un article de Giovanna Zapperi.
Chopper.
Tels des îlots féminins, perdus dans un océan de grands artistes mâles, ces accrochages ne proposent absolument pas de relecture de l'art de la période. ces salles se limitent à intégrer quelques artistes femmes dans les marges de l'histoire de l'art du XXe siècle et ne parviennent pas à poser la question de la différence qu'un regard, à travers le travail des femmes, pourrait apporter au canon artistique du XXe siècle. Le mot d'ordre, ni féminin ni féministe, fonctionne ainsi comme un voile et contribue fortement à la faiblesse de l'accrochage qui ne parvient pas à être incisif, ni sur le plan discursif, ni d'ailleurs sur le plan esthétique, et les deux étant étroitement liés. Une problématisation de la question du genre féminin et de sa dimension politique féministe aurait permis d'articuler le propos de l'accrochage en s'appropriant les outils théoriques et critiques développés par les artistes et les théoriciennes qui, depuis plusieurs décennies, s'interrogent sur la place des femmes dans l'histoire de l'art. De ce point de vue, le titre choisi est révélateur. Elle. Sans doute, la volonté de toucher un public aussi large que possible a-t-elle joué dans le choix du titre de cette manifestation. Mais elle est particulièrement malheureux. Associé au sponsor principal de la manifestation, Yves Rocher, qui affiche pour l'occasion le slogan « Liberté, égalité, beauté », ce titre résonne de manière acritique avec tout cet univers, au féminin, que les artistes féministes n'ont cessé de détourner et de remettre en question. Giovanna Zapperi, à propos de Camille Morino, elle, Centre Pompidou, artiste femme dans les collections du Musée National d'Art Moderne. Elle, une exposition du Centre Pompidou, du 27 mai 2009 au 21 février 2011. Measuring implements.
Donc édition Amsterdam, qui est donc à l'initiative de la revue internationale Livrée des idées. C'est en partie fait connaître parce qu'on a beaucoup traduit de théoriciens, des études gays et lesbiennes, des études féministes, des études queer. Et donc on a beaucoup travaillé ces questions, c'est des questions qui nous sont chères. Et dans la Rilly, je pense qu'on n'est pas à la hauteur de ces questions, de ces préoccupations. Donc ça revient régulièrement, mais à mon avis de manière pas assez centrale, avec pas assez de force. Mais c'est qu'il est aussi assez difficile en fait de trouver des contributeurs, de trouver les livres aussi qui permettent des approches aiguës. Il y a aussi chez un certain nombre de personnes qui partagent notre sensibilité sur ces questions, il y a aussi une forme d'académisme, une sorte de qui se met en place où il y a des discours assez attendus sur la critique des identités, sur la critique. Et en gros, on n'a pas envie de blablater, de répéter toujours les mêmes choses. Donc là, on cherche à se déplacer dans ces questionnements-là, les renouveler et pas être dans un canon un peu établi ou avec une position un peu figée qu'il s'agirait d'évoquer de manière un peu rituelle. Mais il est vrai qu'il y a une nouvelle génération de chercheurs en France qui tout d'un coup s'est emparée assez librement de tout ça, en récupérant ce qui s'était fait aussi en France, parce que la France n'était pas un désert de ce point de vue-là, il y a toute une histoire de recherche féministe ou de recherche sur l'histoire des femmes, et avec une certaine liberté de travail. Mais pour nous, en tout cas, à ce jour, il est difficile de rendre compte de ces travaux et de ce mouvement avec toute la force qu'il faudrait. C'est vraiment compliqué de trouver, d'abord de comprendre ce qui se passe. De le voir, là il y a un problème vraiment de lisibilité, visibilité de ce qui se passe, et puis ensuite trouver des contributeurs disponibles et susceptibles d'écrire avec une intelligence critique. Donc là il y a tout un travail de constitution d'un réseau d'auteurs, de contributeurs qui est encore à faire.
I don't smoke for the same reasons others do, because of habit. I'm not used to laughing anymore, and my facial muscles would hurt if I tried it again. The pebble at the bottom of the sea is wounded by your shadow. To leave the district of security. To burn the dryness of the vagina. To pursue the harshness of power. To deprive the animal of its fight. Words tear at the shores of my mouth. The desire of my mouth bursts at the cliffs of its opening. Recommendations is condemnations.
Au-delà de la question du genre, c'est de nous intéresser toujours au point de contact entre pratiques savantes, pratiques de recherche savantes et pratiques militantes, activistes et production de savoir autonome à distance ou en dehors. Donc là, il y a vraiment un souci pour se faire se rencontrer. Ces différents lieux de ces différentes pratiques, ces différentes activités, ces différents lieux de production de savoir, pour en faire jouer dans chaque cas tout le potentiel critique.
Revue internationale des livres et des idées, numéro 16, mars-avril 2010.
Parce que c'est bien beau de se battre pour les espaces verts, bien sûr, mais le jour où il n'y aura que des espaces verts et plus d'usines, avec quoi on fera vivre sa famille? Qu'est-ce qu'on gagnera comme argent?
Comment vivons-nous? Un entretien avec Stéphane Lavignotte par Charlotte Norman et Jérôme Vidal à propos de la publication La décroissance est-elle souhaitable chez Textuel. Destiné à faire sauter des murs, à remettre en question des évidences, la notion de décroissance, si elle y parvient, rencontre aussi de nombreux blocages, en particulier dans la gauche militante. De la remise en cause de l'infinie croissance à la critique du progrès, de la critique des institutions à la réaction anti-68, ou encore des expérimentations politiques à l'État comme agent de la transformation sociale, c'est avec le concept de décroissance que s'énonce au pluriel l'écologie politique.
Nous sommes saisis du livre de Stéphane Lavignotte et de son objet, donc la décroissance, effectivement comme moyen de poser un certain nombre de questions qui nous semblent aujourd'hui absolument cruciales, critiques. C'est d'autant plus intéressant que la notion même de décroissance était une notion extrêmement problématique, provocante, provocatrice, ce qui fait sa richesse et en même temps toute son ambiguïté, peut-être ses contradictions insolubles. Alors d'une part, ce qui nous semblait intéressant, en travaillant cette notion, c'est qu'elle vient d'une certaine façon, elle permet de poser de manière beaucoup plus concrète et à mon avis féconde un certain nombre de problèmes qui sont soulevés par ailleurs par la réactualisation de la notion d'anticapitalisme, qui moi me semble, je peux me dire anticapitaliste sans problème, mais en même temps ça me semble une notion extrêmement ambiguë, extrêmement vaste, trop générale, pour poser efficacement un certain nombre de questions. Avec la décroissance, on a autre chose. On a un concept beaucoup plus précis qui d'abord est beaucoup plus tranchant par rapport à l'idéologie ambiante dans ce qu'elle peut avoir de plus très concret, dans ce qu'elle a, la façon dont elle organise nos pensées, nos vies aussi, nos urgences, telles qu'elles s'expriment dans les médias, mais aussi sur nos lieux de travail, dans nos vies. Et avec la décroissance, on est vraiment, il y a une sorte de rupture où on est amené, d'une certaine façon, à mettre à mal l'évidence du monde tel qu'il va, des urgences idéologiques et politiques de l'heure. Et puis, on est aussi immédiatement renvoyé au quotidien. Parce qu'il s'agit, avec la décroissance, de mettre en question non seulement un modèle économique, on peut dire à mon avis, ultimement, le capitalisme. Donc, il y a une dimension anticapitaliste dans la perspective décroissante. Mais il y a aussi une interrogation sur le quotidien, sur la façon dont, justement, nous vivons, dont nous organisons, dont nous nous parlons, dont nous mangeons, dont peut-être nous faisons l'amour, ou nous associons, avons des amis, nous lions les uns aux autres. Et il me semble que ce qui fait vraiment, justement, tout à fait défaut à la pratique politique, aux pratiques idéologiques, critiques aujourd'hui, du moins celles les plus médiatisées, notamment dans les milieux anticapitalistes, c'est justement ce souci du quotidien. Autrement que, en gros, du point de vue d'une préoccupation sur la fiche de salaire, qui n'est pas négligeable, surtout dans les circonstances actuelles. Je veux dire, il n'y a vraiment rien à redire aux réflexions sur l'emploi, le salaire, bien qu'on puisse les prendre de manière très différente. Mais à mon avis, il importe d'investir la question du quotidien de manière beaucoup plus profonde et large en assumant les questions que je soulevais sur nos manières de vivre, et en se demandant comment on peut introduire là-dedans de la différence, justement transformer ces manières de vivre, de nous parler, de nous organiser, de nous agencer au monde qui nous entoure, les uns aux autres. Donc, point de départ, une notion qui me semble avoir une prise beaucoup plus forte et des effets critiques beaucoup plus grands que d'autres axes qu'on peut prendre pour intervenir en politique aujourd'hui, mais qui est elle-même porteuse d'un certain nombre d'ambiguïtés. Notamment, on a été très troublés ces derniers temps en suivant certains milieux qui sont porteurs du terme et de l'idée de décroissance, notamment le journal La Décroissance, qui est en même temps porteur d'une culture qui nous semble extrêmement... Ils sont porteurs d'une sorte de républicanisme animé par une pensée anti-68, très stéréotypée, très fermée, qui vient complètement écraser, à notre avis, toutes les virtualités critiques dont, en termes de critique des formes de vie, peut être porteuse la notion de décroissance. Il y a une espèce de contradiction comme ça dans les usages, et donc il nous semblait aussi intéressant d'interroger ça, de voir comment c'était possible, qu'est-ce que c'est que cet objet, donc la décroissance, le journal, et de vraiment oui, de mesurer ça, et d'engager un dialogue qui, j'espère, se poursuivra dans nos colonnes, dans les colonnes de la décroissance, ou au cours de débats, ou à travers des formes d'échanges qu'on peut inventer. Mais là, il y a vraiment un questionnement qui me semble renvoyer à un problème beaucoup plus général on a l'impression d'être toujours renvoyé à gauche, en tout cas parmi la gauche de gauche, hein, à justement une espèce de bilan de mai 68 où, en gros, un certain nombre de personnes considèrent que mai 68 a été le terreau du néolibéralisme et de toutes les trahisons.
Certains partisans de la décroissance, en particulier au sein du journal La Décroissance, développent des positions républicanistes qui s'opposent directement à cette contestation des normes, si centrale en 68. On a le sentiment qu'ils partent non de la critique des normes, mais du prétendu constat d'un effondrement symbolique et d'une défense de la loi, qui serait au fondement de l'ordre social et se trouverait aujourd'hui menacé. C'est cette posture de gardien de la loi qui semble en définitive fonder leur critique du consumérisme, leur critique de la société contemporaine.
Je pense que cette veine très très forte à la gauche de la gauche, le critique de 68, vient exactement faire le contraire que ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire ne parviendra jamais au détriment justement des luttes minoritaires, des luttes dites sociétales dont auraient été de manière privilégiée porteuses des luttes autour de 68. Donc contrairement à cette idée qu'il faudrait en gros donner une position secondaire à ces luttes pour réinvestir les luttes sociales, les luttes économiques, je pense qu'on ne s'en sortira que si on est capable de comprendre que tout ça est complètement noué, qu'il n'y a pas d'un côté les luttes sociétales, pas d'un autre côté les luttes sociales, et que c'est vraiment par une approche transversale et que les choses vont de pair. Donc là, il y a un bilan à faire dont la revue essaye d'être un lieu privilégié. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment un nœud très important pour la réflexion et la politique aujourd'hui. Nœud qu'il faut défaire si on veut vraiment libérer des possibles critiques dans la situation.
Ah, pense que la question de à quoi ressemble aujourd'hui le capitalisme.
Luc Boltanski.
Je pense qu'on ne peut pas bien y répondre. C'est-à-dire que je pense que personne, actuellement, la crise est telle. Je pense, si vous voulez, qu'on est très loin de la période où on a écrit le nouvel esprit du capitalisme. On était en face du début de la montée financière et d'un moment où elle avait l'air de réussir, et on était en plein dans la réorganisation du travail, dans un moment où elle n'était pas encore complètement contestée et surtout pas encore complètement fausse. Aujourd'hui, je pense que tout le thème de l'autonomie au travail, par exemple, a complètement disparu. Il a joué son rôle historique. Aujourd'hui, la pression de la discipline d'entreprise est bien plus forte qu'au temps du taylorisme. Je pense qu'on n'a jamais été aussi fort. Et par ailleurs, le nouvel esprit, au fond, joue la carte de la possibilité du réformisme. Il faut bien voir, si vous voulez, que quand le livre a été écrit et quand il paraît, c'est une période où le mot capitalisme est simplement exclu du discours politique et du discours sociologique. Je peux dire qu'en France, je crois que c'est nous qui l'avons remis en circuit. Et donc, il fallait y aller mollo. Si on voulait être entendu et lu, il fallait faire des analyses. Bon. Donc, je pense que le livre vaut toujours pour sa dimension historique, vaut toujours pour sa dimension théorique, et qui intéresse les sociologues. Et je pense qu'il a pris un sacré coup de vieux dans sa dimension politique, je veux dire.
Dans la revue, on est revenu à deux fois, sous ma plume et sous celle de Maurizio Lazzarato, sur ce livre. Ce qui me semblait important, parce que c'est un livre qui a eu un impact culturel, politique très important. Et puis aussi parce que dans ce type de discours, c'était certainement la formulation la plus intéressante. Parce qu'il y a des versions, dans la pensée anti-68, il y a des versions extrêmement plus sommaires, moins subtiles, d'une manière, moi, qui me semble moins intéressante. Avec Boltanski, il y avait quelque chose, et Chapello, donc les deux auteurs du livre, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant. Alors, il importe de dire, moi, je pense que ces livres étaient effectivement bien porteurs de cette pensée anti-68, qu'ils ont bien opposé critique sociale, critique artiste, selon leurs termes, dans ce livre. Aujourd'hui, en tout cas, Boltanski rejette cette lecture de son livre et se désolidarise complètement, il me semble, justement, de la pensée anti-68. Donc, bon acte. donc, il ne me semble pas aujourd'hui qu'on puisse désigner Boltanski comme le porteur, le véhicule. Il a en tout cas au moins des formulations beaucoup plus, disons, dialectiques sur la question. Et donc, il faudra sans doute, ce qui devrait arriver puisqu'on prépare un entretien avec lui prochainement, il faudra en rendre compte aussi, faire écho de ses déplacements. Même si je suis sceptique quand il prétend que la lecture que nous avons faite du livre n'était pas justifiée.
L'épouvantail de la deep ecology a durablement paralysé le débat sur l'écologie en France. Parler d'écologie, c'était forcément être écologiste. Et être écologiste, c'était être contaminé par des peurs irrationnelles ancrées dans un anti-humanisme militant. Il y avait donc une certaine urgence à avoir accès en France aux écrits fondamentaux d'Arne Naess. Fabrice Philippot, à propos de écologie, communauté et style de vie, d'Arne Naess.
Qu'il y ait effectivement dans l'écologie, y compris dans les milieux qui se désignent comme relevant de la deep ecology, des gens qui ne sont pas forcément sympathiques ou intéressants et sur, parfois vraiment pas recommandables, certainement. Il ne me semble pas qu'on puisse déduire de là que tous les représentants de la dite Deep Ecology sont des proto ou post-nazis. Et c'est en tout cas absolument pas le cas de Arnenes, dont vraiment je pense que l'article de Fabrice Flippot publié dans son numéro de la Réalité mérite d'être lu et cet article mérite d'être diffusé, lu et discuté. Donc il fait tout simplement une présentation du livre d'Arnenes, Écologie, communauté et style de vie, qui vient d'être traduit, enfin qui a été traduit déjà en 2008 en français. Et qui permet de prendre la mesure du travail d'Arnenes, qui n'a absolument vraiment rien à voir avec comme ça, un épouvantail, l'épouvantail qui est agité. Alors, il est important quand même de revenir à cette idée d'épouvantail, parce que dans le débat, un des gros problèmes qu'on a à affronter quand on essaye de discuter, c'est précisément des stratégies, en gros, de disqualification. Qui précède toute discussion. Alors, on peut le vérifier avec la Deep Ecology, avec le travail d'Arnenes. Moi, je le vérifie constamment avec des questions dont j'ai été porteur comme éditeur liées aux études postcoloniales ou aux questions à la théorie queer. Il y a un effort pour présenter de manière caricaturale et franchement caricaturale ces lieux de pensée de manière en fait à ne vraiment à écarter les discussions, et y compris moi je vois très bien dans la façon dont c'est assez amusant de voir comment parfois notre travail est perçu, où je vois bien les commentateurs qui ont le sentiment qu'en gros nous sommes du côté des queer studies, nous sommes, comme si c'était une question de... Alors que, évidemment, il y a des choses qui nous intéressent, et si on traduit, c'est parce qu'on pense qu'il y a une urgence à faire circuler ces idées-là. Mais il suffit d'être un peu attentif à notre travail pour voir que notre approche est beaucoup plus libre, qu'il ne s'agit pas d'ériger en comment dire, mesure de toute chose ou en dogme tel ou tel travaux, tel ou tel auteur. On a publié Judith Butler, qu'on apprécie beaucoup, qui nous intéresse beaucoup, qui nous donne beaucoup à penser, mais aussi sur laquelle on a beaucoup de choses à dire et des critiques. Elle critique autant elle suscite, à mon avis, autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et c'est très bien. Vraiment, à la limite, elle serait moins intéressante si elle emportait absolument la conviction. Et il est très difficile de faire entendre qu'on puisse vouloir introduire les études queer, les études gays, lesbiennes, les études postcoloniales sur un mode qui n'est pas dogmatique, qui est justement problématique, questionnant, et qui présuppose qu'il y a là des choses à penser, des choses qui nous remettent aussi en cause, et que c'est utile. Et donc, on a constamment affaire, et l'épouvantail américain, en fait, est très efficace. Parce que tout ce qui vient des États-Unis, dans l'université française, est assez régulièrement dénoncé comme conduisant au communautarisme, conduisant au sectarisme, conduisant au relativisme. Et donc là, il y a vraiment un travail très, très difficile à mener, de longue haleine, qui donne un peu l'impression d'être toujours, d'ailleurs, d'avoir à mener des luttes d'arrière-garde, parce que... démontrer que ce n'est pas vrai, c'est fatigant parce que c'est des choses qui devraient être acquises, on devrait être en train de discuter de là où effectivement ça coince réellement, où les études postcoloniales, ben, où ça coince, et ça coince effectivement quelque part, c'est pas des discours qui sont comme ça, ça grince, ça coince, c'est problématique, c'est pas tout à fait satisfaisant, en même temps c'est pas non plus des discours qui sont... homogène. Il y a des tendances, des courants qui s'opposent. Et donc, il faut faire résonner. Et ce qui est intéressant, c'est de justement saisir ces zones grises où le discours n'est pas simple, mais donne à penser et où on est dans le problématique. Alors, il peut arriver comment dire, qu'il y ait des confrontations de l'ordre vraiment polémique, où on a affaire à une situation où il y a quelque chose d'un peu comme s'il y avait... de l'irréconciliable. Et donc, il nous arrive de publier, moi, il m'arrive d'écrire des textes assez violemment polémiques, où il s'agit de dire, voilà, là, ça suffit, quoi. Mais en général, justement, pour pointer des discours qui viennent empêcher une appréhension véritablement problématique et donc dialogique des questions, ou en gros, enfin moi je sais que quand je me mets en colère dans le débat intellectuel, c'est précisément quand quand j'ai en face de moi des gens qui viennent pourrir les discussions. Je veux dire, j'ai aucun problème avec il y a du désaccord, et moi-même, enfin comme auteur, je suis en désaccord avec moi-même, il y a des trucs où je sens j'ai pas assez travaillé, ou ça coince, ou il faut que je me déplace, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que j'apprenne à écouter des gens avec qui, a priori, je suis pas du tout d'accord. Il y a du boulot, quoi. Et ça, c'est, la mécanique, ça va pas, quoi. Et ça, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Et on peut être dans la polémique et dans le désaccord. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de Ben Saïd. Ben Saïd était vraiment quelqu'un de remarquable pour ça, parce qu'il était prêt à ça. Et il était capable de construire un espace de confrontation polémique, mais productif, où il était capable de, où il était possible de saisir là où ça coince, là où peut-être on aussi ça coince pas et on n'avait pas pris le temps de le voir. Et donc effectivement, l'objectif de l'Art Illy, c'est de constituer un espace comme ça de dialogue critique, polémique, mais productif. Qui prend d'ailleurs, enfin je peux parler de Ben Saïd, mais j'avais interpellé Ben Saïd qui avait répondu dans la revue, donc il y avait la construction d'un dialogue comme ça, et on aimerait bien développer ce genre de choses. Tu évoquais tout à l'heure Foucault, il y a non seulement le débat avec Aron, mais il y a celui aussi avec Deleuze. Il ne faut pas confondre les deux personnes qui étaient porteurs de projets théoriques et politiques en fait. Sans doute assez distinct et voire opposé, enfin en tout cas, oui, bon, vraiment différent et en partie contradictoire, et ou avec le débat avec Chomsky. Il faudrait, mais à l'époque il y avait aussi des lieux pour ça, hein, quand ce genre d'entretien, alors qui pour certains des entretiens évoqués ici étaient filmés, mais il y a eu aussi bon, des grands entretiens qui sont aussi des formes de dialogue avec Deleuze, publiés autrefois dans le magazine littéraire. Qui sont très longs, et l'équivalent de ce que nous faisons aujourd'hui, qui pouvait, il y a 20 ans, être publié dans la grande presse en France. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, notre effort, c'est constituer des espaces où, si polémique il y a, elle est productive, et où la polémique dispose de l'espace nécessaire.
Io credo che
Antonio Negri
intorno a questa tematica ci sia appunto una nuova dimensione complessiva
haya una nueva dimensión complessiva
che ci permette di ripensare la struttura costituzionale
che nos permite repensar la estructura constitucional
dopo la crisi della sovranità
después de la crisis de la soberanía.
Altro elemento che consideriamo, un secondo elemento che consideriamo, un secondo movimento.
Un secondo elemento che consideriamo, un secondo elemento.
Fin qui abbiamo visto questa crisi della sovranità.
Hasta ora abbiamo visto questa crisi della sovranità. Realizzarsi come transizione
dal punto di vista politico istituzionale.
Dal punto di vista politico istituzionale.
Cioè crisi della sovranità, governance.
È decir, crisi della sovranità, governance.
Ridefinizione del potere costituente.
Ridefinizione del potere costituente.
L'altro tema enorme che si presenta è
quello. E l'altro tema enorme che si presenta
è quello di questo dualismo, di questo uno diviso in due dal punto di vista del lavoro.
Es este el problema del dualismo de este uno que se divide en dos desde el punto de vista del trabajo,
de la organización del trabajo y de los rapportos de fuerza que lo atraviesan,
de la administración del trabajo y de las relaciones de fuerza que lo atraviesan. ¿Quién produce hoy?
En la contemporaneidad la máquina de la, en la contemporaneidad es la producción es viene dalla macchina della moltitudine.
En la contemporaneidad, en la producción, encontramos la máquina de la multitud.
La producción es siempre social.
La producción es siempre social.
Siempre più sociale.
Siempre cada vez más social.
Y la forma egemone del lavoro produttivo è il lavoro cognitivo.
Y la forma general del trabajo productivo es el trabajo colectivo.
Cognitivo. Il lavoro immateriale.
El trabajo inmaterial.
Il lavoro cognitivo è quello che valorizza ormai in maniera definitiva y procesos económicos.
El trabajo cognitivo es el que valoriza
el que valoriza
los productos económicos.
Produire le commun. Entretien avec Antonio Negri par Filippo Del Lucchese et Jason Smith. À propos de Commonwealth de Michael Arr et Antonio Negri. Revue internationale des livres et des idées, numéro 16, mars-avril 2010.
C'est un peu un cas comparable à celui de Daniel Ben Saïd, où il y a à la fois une sorte de compagnonnage et puis en même temps une distance critique, des réserves parfois fortes. En tout cas, il me semble que le travail de Negri, d'Antonio Negri, est absolument fondamental justement pour poser avec toute sa force la question du commun aujourd'hui. Et je crois pas, alors on peut avoir de fortes réserves sur les formulations employées, je crois pas quand même qu'il y ait d'auteur qui ait pris autant que lui et autant que son ami Michael Arr la mesure des enjeux que recoupe cette question pour la politique aujourd'hui. Avec les transformations auxquelles on peut assister du capitalisme, et au moment de sa mondialisation, de la constitution d'une sphère néolibérale, et toutes les recompositions politiques qui ont suivi, et les transformations des identités de classe, des formes d'organisation politique. Voilà, et donc là, c'est encore un livre qui n'a pas été traduit en français, donc écrit en anglais, par Michael Arr et Antonio Negri, Commonwealth, qui est le troisième volume du triptyque composé par Empire, Multitude et Commonwealth. Donc le troisième grand livre récent de Negri, pas encore disponible. Et qui, donc là, on offre une discussion des thèmes principaux du livre.
Nous sommes des modes. Nous sommes des modes. Nous ne sommes pas des substances. C'est-à-dire, nous sommes des manières d'être. Nous sommes modes, ça veut dire manière d'être. Nous sommes des manières, des modes. En d'autres termes, l'être se dit de quoi? Il se dit de l'étant. Mais qu'est-ce que l'étant? L'étant, c'est la manière d'être. Vous êtes des manières d'être. C'est bien ça, vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des manières d'être.
Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Il y a des choses qui se sont nouées chez Spinoza, pensée de l'immanence, pensée de la multitude, qui sont au carrefour de tout ce qu'on peut penser aujourd'hui, dans la pensée des formes de normalisation, pensée de la norme, de l'historicité des normes sociales.
Spinoza et la précarité de l'émancipation, par Pierre-François Moreau, à propos de Spinoza ou l'autre infinitude d'André Tozel.
On est là dans un espace de pensée qui, je crois, définit une grande partie de ce qui est notre tâche aujourd'hui encore. On est dans un espace de... En tout cas, je me situe dans une... C'est pas tellement une filiation, c'est plutôt vraiment dans un espace de pensée où les questions que je me pose trouvent des formulations premières extrêmement fortes et vigoureuses chez Spinoza. Après, avec des développements contemporains, on peut dire que des auteurs aussi différents que Foucault, Deleuze et Bourdieu, contrairement au titre de ces méditations pascaliennes qui induisent en erreur, on a affaire là à quelque chose qui est plutôt un certain spinozisme, peut-être pas le mien, mais assurément, il y a une filiation, même un auteur comme Lacan d'ailleurs aussi, il y a une marque, une empreinte de Spinoza très forte. Il y a quelque chose dans la pensée contemporaine qui se joue, il me semble que les grands auteurs contemporains, ceux qui me sont chers en tout cas, ont rencontré Spinoza sur leur route, et il y a une marque profonde, Donc voilà, donc Spinoza, c'est une lecture absolument nécessaire, lecture qui transforme le texte de Spinoza à la lumière justement de travaux ultérieurs, mais aussi c'est un instrument qui permet de penser les auteurs qu'on lit aujourd'hui, et puis le monde contemporain. Enfin, vraiment, j'énumère un certain nombre de perspectives, de questions sur l'immanence, les affects, les normes, la question de la multitude. On est là dans un réseau de concepts, d'idées qui pour moi définit le pensable contemporain.
C'est ça. C'est un rapport de vitesse et de lenteur. C'est des rapports de vitesse et de lenteur sur le plan fixe de la substance absolument infinie. Bon, alors, j'ai une manière d'être, d'accord, on avance un peu, puis je suis rien d'autre. J'ai un rapport de vitesse et de lenteur entre des molécules qui me composent. Quel monde! Vous pensez que, évidemment, tout croyant, tout chrétien bondissait quand il lisait du Spinoza, il disait, même tout juif, je ne sais pas, tout homme de religion. Il continuait, bon, je n'en faisais pas. Alors bon, quelle manière de l'être je suis, quelle manière d'être je suis, si je suis une manière d'être. Il dira, c'est pas compliqué, voilà. J'ai un corps et une âme. Là, il semble retomber un peu sur les pieds de tout le monde. J'ai un corps et une âme. Enfin, on s'y retrouve. Ah, enfin, quelque chose, il dit comme tout le monde. Ça va pas durer longtemps. Il dit, c'est très vrai, ça. J'ai un corps et une âme qui est magnifique, ça. Et d'un certain côté, c'est embêtant. Puisqu'il y a une infinité d'attributs de la substance absolue. Et moi, j'ai simplement un corps et une âme. Qu'est-ce que c'est un corps?
Revue internationale des livres et des idées. Mars-avril 2010, numéro 16. Document internet. Chaîne YouTube. Jeanne Howett Books. Musique originale du film Un lac de Philippe Gondrieux. Apostrophe. Du 30 juin 1989 avec Daniel Bensaïd. En français dans le texte du 25 avril 1961 avec Nicky de Saint-Pal. Meta Joy de Caroline Schneemann. Semiotic of the Kitchen de Martha Roslin. Syntagme de Valley Export. Extrait du discours de Nicolas Sarkozy en faveur de l'industrie, du 4 mars 2010. Luc Boltanski, entretien avec Olivier Besancenot pour la revue Contre-temps. Antonio Negri, à propos de Commonwealth. La voix de Gilles Deleuze, cours sur Spinoza, Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Une émission de la revue radiophonique À bout de souffle avec Jérôme Vital, directeur des publications de la revue internationale des livres et des idées. Poésie Gavagai de Pierre Alfer.
Gavagai, ce serait la musique des premières secondes. Ce serait la musique des premières secondes de l'univers urbain.